Bonjour chers auditeurs. Après avoir suivi le mois dernier Spoutnik et vu quelles relations les hommes entretenaient depuis toujours avec le ciel, qu'ils soient simples habitants, astronomes ou écrivains, voyons quelques autres aspects de cette activité. Tout d'abord, les fusées. Des textes en sanskrit parlent de grands vaisseaux volants munis d'armes extraordinaires propulsés par des jets de feu. En Chine, les fusées à poudre pour les feux d'artifice sont utilisées dès l'an 850 et elles sont employées dès le 12-13e siècle comme armes, comme le témoignent les récits de la bataille de Kaifeng-Fu, assiégée par les Mongols en 1232. Des centaines de tiges de bambou, au bout desquelles sont attachées des fusées, sont plantées, pointant vers la plaine où se trouvent les cavaliers mongols. Terrorisés par les explosions qui pleuvent autour d'eux, les téméraires cavaliers mongols fuient et l'Empire céleste est sauvé. Elles seront utilisées contre les cavaliers anglais par le souverain indien du royaume de Mysore, Hyder Ali, qui fera tirer à Coromandel des salves de fusées de 5 kilos portant à 2 kilomètres. Cette défaite, suivie de bien d'autres, inspirera le britannique William Congreve, qui améliorera les fusées indiennes. Il les utilisera lors des guerres napoléoniennes, entre 1800 et 1815, allant jusqu'à venir bombarder avec des fusées embarquées sur une flottille les troupes françaises massées sur les côtes en vue de l'invasion de l'Angleterre. Et les Anglais réutiliseront le même moyen pour détruire Copenhague. Une autre utilisation plus pacifique des fusées, le sauvetage de bateaux en panne, dès 1855. Les câbles de remorquage étant envoyés au moyen d'une fusée à deux étages, ce qui était bien moins dangereux pour les marins qui envoyaient les câbles. Autre utilisation, mais mortelle pour les baleines, une fusée explose sur leur peau et le câble sert à les remorquer à terre. Les fusées feront leur retour lors de la Grande Guerre, où elles seront utilisées à partir d'avions alliés contre les ballons zeppelins allemands. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on retrouvera ces fusées, entre autres dans le camp soviétique. Et les roquettes et autres missiles modernes en sont issus. Autre domaine tout aussi important, la politique qui, combinée à l'espace, sera vue ici comme source d'inspiration. Le médecin Alexandre Bogdanov, créateur du premier centre de transfusion sanguine, militant bolchévique, écrit en 1908 un texte dans L'Étoile Rouge où un hétéronef atomique emporte sur Mars un représentant du socialisme qui découvre une société basée sur un communiste accompli. En 1922, Alexei Tolstoï écrira Aelita, un roman dans lequel il raconte une vision extraterrestre de la Révolution d'Octobre, où un soldat et un ingénieur russe enseignent la révolution aux travailleurs martiens, qu'ils ont rejoint à l'aide d'un vaisseau propulsé par de l'ultra-lidite, un puissant explosif, roman duquel sera tiré un film éponyme. Un peu moins sérieux, les canulars liés à l'espace. Comme il n'y a pas que des gens sérieux sur Terre, certains ont profité de l'engouement pour le ciel pour monter des coups tordus. C'est le New York Sun, qui publie en 1835 une série d'articles relatant les études du ciel menées en Afrique du Sud par le savant John Herschel, donnant des détails farfelus sur de prétendues communications du savant, détaillant la faune et la flore lunaire. Le retour de l'astronome mit fin à ses mensonges. Si le soufflet est retombé, l'intérêt pour l'espace reviendra en force en 1877, lorsque l'astronome Schiaparelli prétendit avoir découvert sur Mars des canaux parfaitement rectilignes, preuve d'une intelligence animale, d'où la vogue des histoires de martiens. Cela prit une dimension planétaire au cours des émissions de radio diffusées par H.G. Wells le 30 octobre 1898, relatant une invasion de la Terre par des martiens très belliqueux, embarqués dans des obus tirés depuis Mars, tombés dans la banlieue de Londres, entre autres. Martiens qui projetaient d'envahir la Terre et d'y exterminer sa population. Les rumeurs de panique, voire de suicide liées à cette diffusion ont été passablement exagérées. Dans l'autre sens, c'est un obus tiré de la Terre que Georges Méliès fiche dans l'œil de la Lune, où il envoie ses explorateurs en 1902. Essayons maintenant de répondre à une question que tout le monde se pose lorsque l'on évoque les milliards de galaxies peuplées chacune de milliards d'étoiles, émettant toutes de la lumière. La question c'est, pourquoi le ciel est-il noir, alors que partout autour de nous, il y a des étoiles? C'est parce que le nombre d'étoiles dans l'univers n'est pas infini, que les étoiles entre la Terre et les étoiles, la distance entre la Terre et les étoiles se compte en milliards d'années, et que la vitesse de la lumière, elle, est une valeur finie. La lumière des étoiles les plus lointaines ne nous est pas encore parvenue. Ce paradoxe a été formulé par l'astronome allemand Heinrich Olbers en 1823. Et, comme l'a montré Edwin Hubble, l'univers étant en expansion, leur lumière mettra de plus en plus de temps à nous arriver. Et un jour, elles seront si loin qu'elle ne nous arrivera plus. Cette expansion de l'univers et la possibilité d'existence d'une infinité d'univers, les multivers, a été faite en 1970 par le soviétique Andrei Linde. Ceci avait été aussi formulé par l'écrivain Edgar Allan Poe dans Eureka et rappelé par Hubert Reeves. Si la succession des étoiles était illimitée, l'arrière-plan du ciel nous offrirait une luminosité uniforme, comme celle déployée par la galaxie, puisqu'il n'y aurait absolument aucun point dans tout cet arrière-plan où n'existât aucune étoile. Donc, dans ces telles conditions, la seule manière de rendre compte des vides qui trouvent nos télescopes dans d'innombrables directions est de supposer cet arrière-plan placé à une distance si prodigieuse qu'aucun rayon n'a jamais pu venir parvenir jusqu'à nous. S'il est un domaine où l'imagination n'a pas de limite, c'est celui de la bande dessinée. La plus connue, l'emblématique BD sur l'espace, c'est évidemment Objectif Lune, suivi de On a marché sur la Lune, d'Hergé, publié en 1954. Plus près de nous, l'espace est source d'inspiration. Aux USA, au moment où John Glenn s'élance vers le ciel, une série de dessins animés créés par le studio Hanna-Barbera, le créateur de Tom et Jerry, met en scène une famille de 2062 vivant à bord d'un bâtiment flottant dans le ciel et se déplaçant à bord d'une soucoupe volante. Et le camp des scouts se trouve, lui, sur la Lune. Une série américaine très populaire, de 110 volumes, Mystery in Space, passionne les petits Américains entre 51 et 66. Un cow-boy texan se retrouve sur Mars et y vit des aventures très terriennes. Enfin, la splendide série de Christian et Mézières, Valérian, nous fait rêver depuis 1967. Accompagnés de Laureline, ils nous font voyager dans une infinité de mondes cosmiques. Un film réalisé par Luc Besson en a été tiré en 2017. Voyons maintenant les hommes qui se sont lancés dans cette conquête. Mais tout d'abord, quelques petites définitions. Quand on parle d'aérostat, c'est un appareil plus léger que l'air. Ça donne l'aérostation, les ballons, les dirigeables. Un aérodyne, c'est un appareil plus lourd que l'air. L'aviation, c'est un terme qui est assez peu employé. Par contre, plus employé, un astronef, c'est un appareil qui évolue au-delà de ce qu'on appelle la sphère de Kármán, qui enveloppe l'écorce terrestre à une distance de 100 km. Mais quels ont été les précurseurs du vol humain? Sur des tablettes d'Assur, 3000 ans avant Jésus-Christ, on voit un homme dans le ciel, Etana. Une légende décrit Alexandre le Grand, emporté par un griffon et survolant son empire, aux alentours de 350 avant Jésus-Christ. Un manuscrit de cette époque, le Livre des montagnes et des mers, décrit le royaume de Qiquang, où les habitants avaient trois yeux et un seul bras, et se déplaçaient sur des chars volants. Une autre légende chinoise, plus récente, aux alentours des années 1500, parle d'un mandarin, Wan Hu, qui construisit un char à roues surmonté d'un baldaquin propulsé par 47 fusées. Il s'éleva dans le ciel, mais l'intrépide mourut de ses blessures. En Perse, un souverain attacha 4 grues, des oiseaux, aux coins de son trône carré, et l'ensemble s'éleva, la foule assemblée le perdant de vue définitivement. Si on parle du cerf-volant, cet appareil, cette machine a été inventée en Chine. Et il arrive en Europe au XVIe siècle, avec l'anglais « bat » et l'italien « veranzio ». Au XIe siècle, des moines s'essayèrent au saut en haut de tours équipés d'ailes battantes, aventure où ils se sont rompus les os, les malheureux. Dante et Damin font des tentatives de vol avec des appareils emplumés. Ceci étaient des tentatives. Les premiers vols sérieux commencent en 1678. Le serrurier français Besnier est le premier à ne pas tomber lors d'essai en vol. Le marquis de Bacqueville franchit la Seine, 300 mètres quand même, en 1742. Pourtant, les savants de l'époque ne croient pas au vol humain. En 1782, 40 ans plus tard, Lalande déclare « Il est impensable qu'un homme puisse s'élever et se soutenir dans les airs. » L'histoire lui donnera tort. George Cayley fit voler en 1804 un premier modèle réduit de planeur cerf-volant. Puis en 1849, il fait voler sur 10 mètres un planeur triplant emportant un petit garçon, premier passager du monde de l'espace. Il réalisera des vols jusqu'en 1853. Et il est mort en 1857. Le terme « aéroplane » a été inventé en 1855 par le français Joseph Pline. Et en 1856, Joseph Lebris décolle son oiseau artificiel, l'albatros, de la plage de Trefuntec, en Bretagne, tiré par une charrette. Mais le câble qui retient le planeur à la charrette s'est enroulé autour du clocher, le malheureux clocher, et Lebris transportera le premier passager de l'histoire de l'air. Passager involontaire. En 1861, Cabriel de Lalande, d'elle, dessine les plans d'un hélicoptère, sorte de vaisseau où les mâts sont remplacés par des hélices verticales mues par la vapeur. Cette idée est reprise par Jules Verne dans Robure le Conquérant. Mais Gabriel de Lalandelle restera surtout connu comme l'inventeur d'un terme nouveau, l'aviation, que l'on retrouve pour la première fois dans son livre « Aviation ou navigation aérienne sans ballon » paru en 1863. Un autre inventeur, Alphonse Penaud, réalise en 1871 un planeur propulsé par une hélice, elle-même mue par la détente d'un élastique. Tout le monde a fait ça dans sa jeunesse, avec des petites machines. Cet appareil va voler sur 60 mètres durant 13 secondes. Suivront plusieurs innovations majeures, l'hélice à pas variable et le train d'atterrissage escamotable, inventions qui ont eu un grand succès. Il dessine en 1876 un aéroplane avec deux hélices, des gouvernes compensées, une commande unique pour la profondeur et la direction, ce qu'on va retrouver sur tous les hélicoptères. Mais, faute de moyens, il ne peut développer un moteur et il se suicide. La technique de propulsion dans le vide fait aussi des progrès à cette époque. En 1857, le russe Konstantin Tsiolkovsky, puis en 1887, le français Alphonse Baudet-Rochas, décrivent les principes thermodynamiques liés à la combustion d'un comburant, l'oxygène, et d'un combustible, le propergol. Un Péruvien, pour vous dire que cette idée elle est vraiment mondiale, de conquérir l'espace, Pedro Paulette, dépose sans succès un brevet de moteur-fusée en acier au vanadium, en 1895. Et c'est un Français, Clément Ader, qui arrivera à construire un moteur assez léger et assez puissant, 1 kg par cheval, pour emporter un aéronef, l'Éole. Le 9 octobre 1890, il va faire un vol d'une cinquantaine de mètres à Armainvilliers. Suite à une commande du ministère de l'Air, il construit un nouvel appareil, l'Avion 3, bimoteur à vapeur, et le fait voler au camp militaire de Satory le 14 octobre 1897, mais sans pouvoir réaliser le vol demandé par les militaires. C'est un échec, et Clément Ader abandonnera là ses travaux. Toujours en 1890, un Allemand, Otto Lilienthal, entreprend des essais de vol plané. Il fera le premier en 1891 et en fera plus de 8000. Mais il se tue en vol en 1896. Un autre précurseur, l'Écossais Percy Pilcher, travaillera avec Lilienthal et fera voler 4 planeurs. Mais lui aussi se tue lors d'un vol de démonstration en 1899. À cette époque, un Français installé en Amérique, Octave Chanute, rassemble tout ce qui touche à la technique aéronautique et le diffuse très largement, sans droit d'auteur, à utilisation libre. Ce sont ses écrits et les nombreux échanges entre ces deux techniciens qui serviront de base aux travaux d'un Américain, Wilbur Wright, dont on va reparler tout de suite. Son frère, Orville, se sont posé la question : comment les oiseaux font-ils pour maintenir leur équilibre ? Après un premier échec à Kittyhawk, où The Flyer, la volante, du nom de la marque des bicyclettes fabriquées par les frères Wright, s'écrase au décollage, c'est, trois jours plus tard, le succès. Les frères Wright réussissent le 17 décembre 1903 quatre vols de 12 à 59 secondes. Sur Flyer 3, ils feront 39 km en 38 minutes en 1905. Un Australien de Sydney, Lawrence Hargrave, s'inspirant lui aussi des écrits de Chanute, construit un cerf-volant avec une structure à base de boîtes qui volera en 1894. C'est très impressionnant, on a l'impression de voir une étagère voler. La recherche avance elle aussi. L'anglais Wenham construit le premier tunnel aérodynamique du monde, suivi par Gustave Eiffel et les frères Wright. Gustave Eiffel était un fabricant extraordinaire qui travaillait sur énormément de choses. Il a fait des ponts, on connaît sa tour, mais des aqueducs, des viaducs, des ponts et un tunnel aérodynamique. De nombreux constructeurs se lancent dans l'aventure. Gabriel et Charles Voisin installent à Boulogne-Billancourt, à proximité de Paris, la première usine aéronautique du monde, suivie en France par Levavasseur, Blériot, Farman, ainsi que Wright et Curtiss aux USA. Cela entraînera une prolifération des vols, des compétitions, des records, jusqu'à la Grande Guerre en 1914. La conquête de l'espace a aussi eu ses visionnaires. On en a parlé tout à l'heure, on a cité ce nom, Tsiolkovsky. Ce Russe, né en 1857, a précisé dès 1878 toutes les règles de base de l'astronautique. Stimulé par les écrits de Jules Verne, il s'appliqua le premier à l'étude des fusées. Son journal révèle que dès 1883, il avait compris que le moyen d'explorer l'espace venait dans la propulsion par réaction. Il publia en 1903 à Kalouga, dans son livre « Exploration des espaces cosmiques et des engins à réaction », un projet de navire spatial, fusée à plusieurs étages, permettant d'écrire la vitesse suffisante pour se libérer de l'attraction terrestre. Utilisant des combustibles liquides, en particulier l'hydrogène et l'oxygène, parce qu'ils produisent plus d'énergie que les combustibles solides, le guidage est assuré par une surface de contrôle placée dans le jet des gaz d'échappement. Et ces fusées avaient des aménagements de cabine très proches de ce qui existe aujourd'hui. Le 1er mai 1933, à Moscou, sur la place Rouge, il déclarait « Camarades, je suis convaincu que mon rêve, les voyages interplanétaires, deviendra une réalité. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous assisteront au premier voyage au-delà de l'atmosphère. Des héros et des audacieux se traceront les premières lignes spatiales. Terre, orbite de la Lune, Terre, orbite de Mars, et ensuite Moscou, Lune, Kalouga, Mars. On ne peut qu'être admiratif devant les propos d'un tel visionnaire. Il imaginera aussi un ascenseur spatial, structure métallique, conduisant une capsule à 36 000 km d'altitude, afin de placer sur une orbite, stationnaire le satellite, et il définira aussi un projet de station spatiale. Il continuera à préciser son projet de voyage dans l'espace jusqu'à son décès, le 20 septembre 1935. Mais il écrit aussi des romans, Au-delà de l'atmosphère, Rêve de la Terre et du Ciel, Empreinte philosophie. Autodidacte, travaillera seul, sans soutien de l'État russe, et ne put mettre en pratique ses théories. Mais l'URSS lui fera des funérailles nationales, le reconnaissant comme le père fondateur de l'astronautique. Un autre Russe, Nicolas Rinin, publia entre 1928 et 1932 un traité d'astronautique en 9 volumes. L'armée russe construira sur la base de ses recherches le lance-fusée Katyushka, plus connu sous le nom d'orgue de Staline, très largement utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale contre les armées nazies. Changeons de pays, allons en Italie. Gaetano Arturo Crocco est un fabricant de dirigeables et d'hélices. Il conçoit la première chambre de combustion italienne, calcule des orbites interplanétaires et propose en 1956 un tour exploratoire en un an des principales planètes du système solaire, profitant de l'assistance gravitationnelle de ces planètes. Mais le contexte politique de l'époque en Italie ne lui permettra pas de concrétiser cette idée, reprise plus tard par la NASA, on le verra un peu plus tard. En France, Robert Esnault-Pelletery approfondit le problème du vol dans l'espace et publie en 1913 une brochure « Considération sur les résultats d'un allègement indéfini des moteurs ». Puis, l'exploitation par fusée de la très haute atmosphère et la possibilité de voyages interplanétaires en 1928. Et enfin, l'astronautique, terme qu'il avait créé avec l'écrivain Rosny aîné, en 1930. Dans ses ouvrages, il propose des solutions pour les moteurs fusées, la propulsion, le guidage, la navigation, la rentrée atmosphérique, l'usage de rétrofusées et de parachutes. Toute technique que l'on va retrouver lors des développements à venir. Il reçut des contrats par des organismes militaires français. Il s'éteindra à Nice 2 mois après le lancement de Spoutnik, donc en 1957. Côté américain, celui qui va mettre en œuvre cette science nouvelle se nomme Robert Hutching Goddard. Professeur à l'université de Princeton, puis de Worcester, il rédigera son premier article relatif à la navigation spatiale, « A Method for Reaching Extreme Altitude », et entreprit en 1912 des études pour améliorer un pistolet lance-amarre. Il dépose des brevets sur les chambres de combustion, les tuyères, les systèmes d'alimentation et les fusées à 2 étages. Il construit en 1918 une fusée éjectant des gaz à 2400 mètres par seconde et écrit en 1920 qu'une fusée de 500 kg pourrait transporter une charge sur la Lune. Goddard obtient des crédits du gouvernement américain et la première vraie fusée à carburant liquide décolle le 16 mars 1926 d'Auburn, dans le Massachusetts. Elle parcourt 56 mètres et atteint 80 km/h. Sa poussée était de 40 newtons. Totalement ridicule, mais suffisante pour en faire le premier vrai engin spatial. La presse de l'époque, absolument pas prête à encourager les chercheurs, titra « La fusée lunaire a raté sa cible de 384 300 km ». Fort de ses premiers succès, il établit son atelier à White Sand, au Nouveau-Mexique, et en 1930, sa fusée atteint 600 mètres d'altitude, puis 12 000 et 800 km/h. En 1932, il équipe ses fusées de gyroscopes, très grande initiative, stabilisant les trajectoires, et sa fusée monte à 23 000 mètres. Goddard disparut en 1945, léguant aux USA la maîtrise de la technique aérospatiale. Mais il travailla isolé, seul, et publia peu ses travaux. Un des principaux centres de la NASA porte son nom. Le gyroscope de Goddard a été en fait inventé par Léon Foucault en 1852. Mais l'histoire n'a plus retenu de lui que son fameux pendule qui montre la rotation de la Terre. Enfin, Hermann Oberth peut être considéré comme le créateur de la science aéronautique. Il propose ses services à l'armée allemande en 1917 et rédige en 1920 sa thèse de doctorat, les fusées vers les espaces interplanétaires. Refusé jusqu'en 1923 par les éditeurs. Il y est sûrement trop en avance. Il y décrit le principe de réaction et la possibilité de placer une charge sur orbite. Son deuxième livre, La route des voyages spatiaux, eut, par contre, un retentissement considérable. Il a été, en 1928, le conseiller technique de Fritz Land, dans une superproduction intitulée « Une femme dans la Lune », pour laquelle il a réalisé une vraie fusée, mais ne maîtrisant pas l'emploi de l'oxygène liquide, la fusée explosa. Il recevra en 1929 le tout premier prix international d'astronautique et lancera une fusée en 1931. Son livre, La fusée vaincra l'espace interplanétaire, sera lu par Werner von Braun et ce dernier lui demanda de faire partie de son équipe dans la mise au point des V2. Sanger, l'Autrichien Eugen Sanger, publié en 1933 Technique de vol des fusées, puis des articles dans la revue Flug, vol en allemand. Ces articles ont servi de base aux équipes qui ont développé les V2, V2, ça veut dire Vergelstun Waffe 2, arme de représente ou de vengeance numéro 2, le numéro 1 étant le V1, une bombe planée. Il imagine un bombardier capable d'atteindre les États-Unis, le Silberwogel. Lancé par un chariot propulsé à Mach 1,5 par une fusée, le bombardier aurait atteint Mach 18 avec une autonomie de 24 000 km. De quoi être capable de lancer une bombe atomique sur les États-Unis et d'aller se poser au Japon. Aujourd'hui, on ne sait pas faire ça. Un avant-goût de navette spatiale. Et son autre projet est de déployer un bombardier hypersonique lancé par une V2. Les essais réalisés en janvier 1945 se solderont par des échecs, alors que l'engin avait atteint Mach 4. Vous voyez, en janvier 1945, on n'est pas très loin de la fin de la guerre, et heureusement. Eugen Sanger sera recruté par les Français et travaillera à mettre au point les avions-fusées Griffon, qui n'auront pas une grande suite. Son nom sera donné à un projet d'avion suborbital lancé par une aile volante. Et enfin, Korolev, Sergueï Korolev, fut le grand maître des programmes spatiaux soviétiques. D'abord exilé au Goulag par le pouvoir politique, il fut transféré à Moscou par Andrei Tupolev, dans la prison pour savants, une charlashka. Réhabilité, il prit en main la récupération des V2 prises aux Allemands, rebaptisé R1, mieux connu sous le nom de Scud, puis met au point le missile intercontinental capable d'envoyer une charge nucléaire jusqu'aux États-Unis, le R7, la fusée Semyorka. Mais il œuvrera auprès des politiques pour que cette fusée de forte capacité ne se limite pas à une utilisation militaire et proposera d'en faire le premier lanceur du satellite artificiel Sputnik. Cette proposition allant dans le sens des dirigeants soviétiques, voulant démontrer la supériorité de l'idéologie du bloc de l'Est sur celle de l'Ouest, sera accepté avec le succès que l'on sait. Mais il échouera dans la mise au point de l'énorme fusée lunaire, la N1. Si Korolev présentera dès 1959 un vaste plan intitulé « Proposition pour la conquête du cosmos », dans laquelle on trouve tout ce que seront les programmes spatiaux à venir, petite station pour l'étude du sol lunaire, les rovers russes, américains et chinois sont basés sur ces idées, orbiteurs lunaires, sondes automatiques vers les planètes du système solaire, le rendez-vous en orbite, les vols habités vers la Lune, puis vers Mars, la colonie lunaire permanente et les systèmes de communication spatiale et de support vie. Son nom restera tenu secret par les soviétiques jusqu'à sa mort, comme les emplacements des bases de lancement, telles que Baïkonour, qui ne figuraient sur aucune carte.
Balado.
J'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Monsieur Denis Gillet, chercheur au CNRS, qui travaille tout près de nous, à l'Observatoire de Haute-Provence. Bonjour Monsieur Denis Gillet, nous sommes à l'OHP, à l'Observatoire de Haute-Provence. Je vous souhaiterais que vous nous présentiez l'Observatoire de Haute-Provence. Pourquoi on est ici sur ce site un peu magique, sur ce plateau à Saint-Michel? Pourquoi on a décidé de venir ici, d'installer dans 1937 un observatoire? Qu'est-ce qu'on y a fait? Qu'est-ce qu'on y a découvert? Puisqu'on y a découvert quelque chose d'assez fantastique. Et qu'est-ce qu'on va faire demain de ce merveilleux site? C'est quoi l'avenir de l'OHP?
Alors 1937, ça... c'était, disons, la première pierre. Mais en fait, c'est une vieille idée qui date presque du début du 19e siècle, là, où quelqu'un qui est assez fortuné a donné des fonds afin de construire un télescope. Initialement, on voulait faire un télescope d'environ 3,50 m de diamètre, avec, c'était possible, techniquement parlant, avec les fonds de l'époque. Mais comme on a mis du temps à sélectionner le site dans la Haute-Provence, effectivement, pour installer un site... donc le diamètre a été réduit en 1937 à 2 mètres. Et bon, il était question de le faire à Fort-Calquier, il était question de le faire à Saint-Michel et puis dans d'autres sites du secteur. Les études de sites ont été menées. Et puis après, bon, bah, c'était le jeu des maires de l'époque d'arriver à tirer un petit peu la couverture à eux et d'identifier l'intérêt de mettre de la recherche dans le village. Dans les... voilà. Donc finalement, c'est le maire de Saint-Michel de l'époque qui a remporté le gros lot. Et c'est pour ça que l'Observatoire est devenu l'Observatoire de Saint-Michel de Provence à l'époque, qui est devenu Saint-Michel l'Observatoire.
Mais c'était une toute petite commune à l'époque, je suppose, Saint-Michel.
Ah, vous savez que là, on est monté à 1200 habitants. Hein, dans les années 80, on était à 730 habitants. Mais avant, en 1850, il n'y avait plus 1000 habitants, Saint-Michel.
Ah, d'accord. C'était une commune agricole.
Oui, en 1960, il y avait... plus de 60 agriculteurs sur le site avec des superficies moyennes d'un ou deux hectares. Donc, c'était des familles qui vivaient. Oui. Maintenant, on n'a plus que 3 agriculteurs avec une centaine d'hectares. Effectivement, on est quand même à 1200 habitants parce que des retraités parisiens viennent profiter du soleil saint-michelois.
Et ils ont bien raison.
Pourquoi le site? Bah, simplement parce que le nombre de nuits par an, clair, est de l'ordre de 200 à 250. Mais avec un ciel relativement pur... et stable, donc du coup c'est pour ça que le site a été choisi à l'époque. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, l'instrumentation demande des qualités de ciel nettement meilleures, c'est pour ça qu'on préfère aller à Hawaï ou au Chili, oui. Mais les déplacements ne sont pas les mêmes, etc., donc les coûts à la seconde ne sont pas les mêmes. Il y a eu jusqu'à 127 personnes qui ont travaillé sur le site. Aujourd'hui, on n'est plus que 23.
127 personnes, ouais. C'est-à-dire administratifs, techniciens, chercheurs.
Ingénieurs, etc. Et maintenant, on n'est plus que 23, et, parce qu'il y a un choix qui est fait. Il y a 2 ans, le CNRS a décidé de ne plus, à ce qu'il n'y ait plus de chercheurs sur place. D'ailleurs, je suis le dernier chercheur CNRS.
Le dernier de la bande.
Et oui, j'aurais pas été le premier, mais je suis le dernier, et je deviens un monument historique à ce titre. Hein. Parce que bon, la qualité du site ne permet plus de faire des choses disons qui sont à la pointe de la recherche au jour d'aujourd'hui. Il y a des choix qui sont faits puisque la recherche française est en gros à volume financier constant, oui. Et on fait des choix pour effectivement aller ailleurs ou des choix satellitaires, etc. Donc simplement c'est l'évolution des choses qui fait que
ça veut dire que la technique a suffisamment évolué pour que l'on trouve plus loin, enfin dans les aires d'Atacama ou à Hawaï, des télescopes qui verraient de voir beaucoup mieux que ce qu'on pourrait voir ici, même en investissant les mêmes sommes, où il faudrait tout refaire.
Donc, bah, disons que c'est la qualité du ciel. À Hawaï, vous avez 320 nuits claires par an, de très haute qualité, avec des images turbulentes très très faibles, ouais. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, le rayonnement UV est très vite arrêté, on n'est qu'à 600 mètres d'altitude.
Oui, Hawaï est à 4000.
4002, alors 4002. Quand vous êtes à 4002, vous vous rendez compte.
C'est pas ça, oui, ça n'a rien à voir.
L'atmosphère n'est pas la même. Ouais. Puis la stabilité de l'image au-dessus du télescope.
Parfait, ouais.
Tout ça fait que, bon, ben, on voit que la rentabilité pour un investi. Parce que maintenant, n'importe quel instrument derrière le télescope coûte une fortune, donc on cherche à rentabiliser et avoir des nuits au mieux, effectivement. N'empêche que la plus grande découverte qui a été faite dans cet observatoire, ça a été la première exoplanète qui a été découverte tournant autour d'une étoile de type solaire. Je dirais en 1900, 1995. C'était annoncé en octobre 1995 par deux Suisses, hein, Michel Mayer et Didier Queloz, puisque Michel Mayer était toujours un grand spécialiste des vitesses radiales, notamment ils avaient, les Suisses avaient ici, de l'Observatoire de Genève, un télescope de 1 mètre qui était installé, avec un appareil qui s'appelait Coravel à l'époque, qui mesurait la variation de vitesse des étoiles en fonction du temps. Et Michel Mayer a eu cette idée de se tourner, puisque la précision augmentait, sur des étoiles pour détecter des corps massifs, donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Bon, la première exoplanète a été découverte en 1992 par un Polonais, un astronome polonais qui travaille aux États-Unis, un radioastronome. Deux étoiles qui tournaient, deux planètes qui tournaient autour d'un pulsar, une étoile à neutrons, etc. Mais ça, c'était 3 ans avant les Suisses. Mais autour d'une étoile telle que qui ressemblait au Soleil, effectivement, bon, bah, c'était en 95.
Et c'était ici.
Ici, avec un petit télescope d'1m93, tout petit, alors que vous aviez en concurrence des télescopes de 10 mètres à Hawaï, par exemple. Et alors, c'est vrai que le télescope d'Hawaï avait mesuré l'étoile numéro 51 de la constellation de Pégase, c'est-à-dire l'étoile qui était la 51e moins brillante parmi les plus brillantes de cette constellation, c'est pour ça que ça s'appelle numéro 51. Ils avaient déjà observé cette étoile, mais ils n'avaient pas encore dépouillé les données. Et effectivement, c'est les Suisses qui ont détecté en premier les variations de vitesse induites par la planète qui tourne autour de l'étoile. Oui. La plus grande découverte qui a été faite ici, et d'ailleurs l'observatoire au niveau observation, au jour d'aujourd'hui, se consacre presque en totalité à la détection de nouvelles exoplanètes.
Donc vous continuez, bien qu'il y ait des observatoires bien mieux outillés, on va dire, et des télescopes plus grands, peut-être d'autres moyens de recherche, à chercher en continu.
Oui, bah, disons que le spectrographe qui s'appelle SOFIE, qui est en activité aujourd'hui pour détecter des exoplanètes, eh bien, ce spectrographe-là a une très très bonne précision. Donc, malgré que le nombre de nuits disponibles ne soit pas de 320, mais de l'ordre de 200 par an, eh bien, on arrive effectivement à détecter pas mal d'exoplanètes.
Donc, et on continue toujours à en trouver d'autres.
Absolument, oui.
On observe celles qu'on a déjà détectées.
Disons que, vous savez, bon, la Terre tourne en un an.
Oui.
Autour de son étoile, qui s'appelle le Soleil. Donc, ça vous le savez bien.
Donc, on balaye tout le spectre.
Faut essayer de confirmer pendant un certain pourcentage de l'orbite, effectivement, pour avoir des informations complètes sur la période de rotation, etc., l'inclinaison de l'orbite de l'exoplanète. Donc, faut observer pendant un certain temps. D'autant plus que si vous allez observer une planète comme Jupiter, qui va tourner en plusieurs années, là, il faut du temps.
Oui.
Donc, ce sont des fois des programmes de longue haleine. Mais bon.
Donc on vient tous les ans, enfin dans toutes les mêmes périodes, revérifier la position de l'étoile.
Une éphémérique qui est mise en place, qui est affinée petit à petit. Effectivement, ça nécessite de revenir sur l'objet un certain nombre de fois pour affiner au mieux les mesures et obtenir des informations très précises. Donc la spécialité au jour d'aujourd'hui de l'observatoire, sont les exoplanètes par plusieurs équipes.
Aujourd'hui, on continue à observer et on a encore des années, des dizaines d'années, voire des centaines d'années d'observation à l'OHP,
Dans notre galaxie, il y a à peu près 100 à 200 milliards d'étoiles. Si autour de chaque étoile va tourner 2-3 planètes, vous voyez le nombre d'exoplanètes potentielles, ça devient un chiffre astronomique. Donc là, aujourd'hui, on en connaît plusieurs milliers. Mais
potentiellement, il y en a des milliards.
Il y en a des milliards.
Dans notre galaxie.
Dans notre galaxie.
Et il y en a des milliards de galaxies.
Absolument.
Donc c'est infini.
Donc, est-ce que nous sommes seuls dans l'univers ?
C'est une autre question.
Grande question.
Je ne vais pas vous la poser. Et si vous me donnez une réponse, je ne suis pas certain qu'elle soit juste. Donc, mais c'est une autre question. On ne recherche pas ici des traces. Le programme SETI, il ne vient pas ici.
Non. C'est un programme radio.
Programme radio, donc c'est bon. On n'en fait pas partie.
Pour l'instant, ce programme qui tourne depuis pas mal d'années n'a pas encore eu de réponse.
Il n'y a rien trouvé.
De détection positive. Et parce que vous savez, bon... Pour pouvoir correspondre avec une civilisation, il faut que nous, on puisse exister et qu'elle ait au moins existé, plus le temps de transport
et qu'elle puisse nous recevoir et qu'elle soit capable d'émettre. Oui, il y a une formule dont je ne me rappelle plus le nom du savant qui donnait la probabilité qu'une civilisation puisse recevoir un message, l'interpréter et nous répondre, et ça, nous identifier et nous répondre.
Oui, c'était M. Drac. En 1961, il a proposé une formule. Effectivement, pour estimer le nombre de civilisations qui seraient capables au jour d'aujourd'hui effectivement, de rentrer en correspondance avec nous. Bon, malheureusement, l'incertitude de tous les paramètres de cette équation fait que on peut obtenir soit un, c'est-à-dire nous, nous-mêmes, soit plusieurs dizaines de milliers.
Oui.
Donc, il y a trop d'incertitudes sur les paramètres pour pouvoir utiliser cette équation afin de donner une réponse certaine.
Oui, c'est ça, quand on parle de milliards d'étoiles dans une galaxie et de milliards de galaxies, si on met un 10-3, un 10-4 ou un 10-5, ça change tout.
Ça change tout, et comme tout est envisageable,
oui.
Donc là, on est dans la totale incertitude de pouvoir quantifier quelque chose.
Bien sûr. Hein? Bon. Mais
ça donne il reste l'espoir. Voilà.
Oui, il y a beaucoup de gens qui en ont de l'espoir et qui aimeraient bien trouver quelque chose. Bien, donc vous nous avez parlé de l'OHP, de ce qu'on y a fait, de ce qu'on a trouvé, et du rôle de l'OHP, mais votre rôle à vous aujourd'hui, ou de ce que vous avez fait, ou ce que vous faites aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi le travail d'un chercheur aujourd'hui, en 2018, à l'OHP?
Bah, c'est de chercher.
Oui, hein, d'accord.
Alors, on cherche, c'est-à-dire qu'on a pour... Bon, un chercheur est totalement libre de ses idées et de son sujet de recherche. Ça, c'est un luxe magnifique. En plus, au CNRS, on n'a pas d'obligation d'enseignement. Parce qu'il faut savoir que ceux qui sont astronomes, donc il y a 600 astronomes en France à peu près actuellement, un tiers travaille au CNRS, un tiers dans des universités et un tiers dans le corps des observatoires. Mais il n'y a que ceux qui travaillent au CNRS qui peuvent décider de ne pas faire d'enseignement et de ne faire que de la recherche à 100%.
De se consacrer à 100% voilà, à votre étude.
C'est un luxe extraordinaire.
Ah oui.
Par contre, mes collègues qui sont à l'université, en gros, deux tiers de leur temps, quand c'est pas trois quarts, est consacré à l'enseignement, aux réunions, etc. Donc, il leur reste un temps relativement modeste pour chercher. Voyez-vous ?
Oui.
Mais bon, c'est une obligation pour eux, ils n'ont pas le choix. Donc, c'est comme ça.
C'est contractuel. Hein ?
Donc, moi, je passe mon temps à chercher. Tous les matins, quand j'arrive, je suis en droit de me dire... Que fais-tu aujourd'hui? Que vas-tu trouver? Que vas-tu chercher? Donc, bien sûr, on se spécialise, hein, puisque c'est extrêmement pointu et complexe. Donc, ma spécialité, c'est l'hydrodynamique stellaire, hypersonique. Ça veut dire que j'étudie des étoiles qui sont plutôt à la fin de leur vie, comme le Soleil dans 5 milliards d'années, et qui auront des atmosphères très instables. Et dans les atmosphères très instables, il y aura des mouvements hydrodynamiques, des couches de gaz qui vont générer des ondes de choc, des bouillonnements, de la turbulence, etc. Donc, moi, j'étudie tous les phénomènes associés à ce genre de physique.
Vous observez des étoiles qui sont dans cet état-là aujourd'hui?
Oui, absolument.
Et vous regardez comment ils évoluent?
Bon, l'évolution, non. Je fais des images instantanées, en quelque sorte, sur une collection d'objets.
Oui.
Et je regarde tous les phénomènes physiques qui surviennent dans l'atmosphère de ces étoiles, des phénomènes hydrodynamiques, couplés avec du rayonnement, etc. Ça permet d'étudier des lois de physique qu'on aura du mal à modéliser dans les laboratoires terrestre, parce qu'il faut des conditions de température et de pression qui sont difficilement atteignables. Dans les étoiles, c'est libre.
Oui.
Donc, on peut pointer les télescopes. Et donc, on a accès à des informations. Hein, donc, c'est ça qui est intéressant. Et j'utilise en gros les étoiles comme un laboratoire. Oui. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, c'est les lois qu'on peut en trouver. Il ne peut pas avoir des applications en aéronautique. Les avions vont de plus en plus vite, etc. Donc, c'est intéressant de connaître effectivement les conditions physiques que pourront connaître nos avions plus tard.
Quand ils arriveront dans des conditions qui sont proches de celles des étoiles, au point de vue température, pression.
Ce qui survient dans l'atmosphère des étoiles, effectivement, quand vous avez un vaisseau spatial, voire dans l'avenir un avion hypersonique qui rate, bon, disons, une vingtaine de fois la vitesse du son, par exemple, il y a des problèmes d'échauffement, des problèmes de vibration, etc. Bon, ben, puis il y a un couplage qui va se faire de plus en plus, ce qui n'est pas encore le cas maintenant, entre le champ de vitesse, donc l'hydrodynamique, et le champ de rayonnement, le rayonnement qui va ioniser les atomes de l'atmosphère, par exemple, faire chauffer le fuselage, etc. Donc, il y a des lois générales effectivement à trouver dans ce domaine-là hypersonique qui sont et l'astrophysique peut permettre de contribuer, notamment l'astrophysique stellaire, à sortir et préciser des lois d'interaction avec le milieu.
Ça, c'est une connexion, un lien entre les deux que peu de gens peuvent imaginer. Quand on regarde les étoiles et qu'on imagine comment se passe une étoile alors en fin de vie ou pour savoir comment vont réagir les avions demain quand ils atteindront des Mach 20, parce qu'il y a notre ami de SpaceX qui veut faire une fusée, justement, qui partira de New York et qui arrivera à Shanghai en 25 minutes. Quoi. Donc il va aller dans ces vitesses-là.
Oui, effectivement, on va faire le calcul, mais ça va vite.
Ça va très vite, oui. Donc il va se retrouver confronté à des phénomènes qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Bon, je ne sais pas comment seront les passagers à l'arrivée, on verra bien.
Si vous voulez être candidat.
Moi, je pense que je suis trop vieux maintenant. Je ne le verrai pas. Donc ça, c'est votre travail aujourd'hui. Et demain, donc l'OHP va continuer à travailler sur tous ces domaines. Mais si vous êtes le dernier chercheur, vos collègues, vous dites que vous êtes 23 à l'OHP, les autres font quoi? De l'entretien, du maintien?
Alors, sont des ingénieurs, parce qu'effectivement, l'instrumentation est très complète. Il y a de l'informatique, il y a des informaticiens. Et il y a encore une secrétaire. Bon, mais disons, on tourne au minimum. Mais il faut savoir que c'est un observatoire maintenant qui est devenu un observatoire de mission. Ça veut dire que les gens viennent d'autres observatoires extérieurs, comme Marseille, Paris, et viennent quelques jours ici observer, par exemple, des exoplanètes.
C'est un observatoire de mission. Oui, d'accord. Et ça va perdurer, ça.
En fait, vous savez qu'il y a un plan de prospective en astronomie qui est organisé par le CNRS à Paris, tous les 5 ans, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire dans les 10 années qui viennent.
Oui, c'est normal.
Et on oriente effectivement, en fonction de ce que l'on ressent, on va orienter les crédits, les postes, en fonction de ce qu'on peut penser, sans cette prospective. En 1994, j'ai assisté en tant que chercheur à la prospective qui avait eu lieu à côté de Nice. On avait réfléchi. Et en 94, et dans tous les discours, ça a duré une journée, fait par les 200 astronomes français qui étaient présents, personne n'a prononcé le mot exoplanète.
Ça n'existe.
Or, personne n'a senti la chose. Ouais. Or, un an après cette réunion, Mayor et Didier Quillot trouvaient la première exoplanète. Donc, vous savez, il faut se méfier.
On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise.
Absolument. Bon, la science est une suite d'erreurs.
Oui.
Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Il ne faut pas hésiter à dire des bêtises si elles sont cohérentes par rapport à l'état des connaissances du moment. Mais il ne faut pas hésiter à se lancer. Et bien là, on est passé à côté de la plaque.
Et l'objectif en 1994, c'était de faire quoi ?
Il y a l'extragalactique, il y a le monde des galaxies, la cosmologie. Il y a un tas de domaines très intéressants. Mais bon, comme le budget, vous savez, est limité, il faut bien faire des choix.
Oui.
Et on essaye de faire ces choix d'une manière raisonnée, avec les connaissances et les perspectives, la prospective qu'on peut faire au moment où on l'a fait. Mais des fois, on loupe des choses. Et là, on avait loupé l'idée des exoplanètes.
On ne peut pas vous en vouloir.
Bon, après, c'est tout à fait rapidement corrigé.
Il y a eu un tel engouement sur cette découverte. Je pense que la réorientation, elle a été vite faite. Je pense pas que les budgets aient explosé à l'époque d'un seul coup.
Non, le budget n'explose pas, mais le budget est orienté.
Il a été réorienté là-dessus.
Voilà.
C'est-à-dire au détriment du reste.
Là, vous prononcez une phrase gravissime, mais qui est tout à fait juste, effectivement. Ça veut dire qu'on a déshérité certaines recherches ou certains domaines pour favoriser les domaines exoplanétaires. Et ça, ça peut être un défaut quelque part aussi.
On est déshabillé Paul pour habiller Pierre.
C'est ça, et on peut attraper froid pour certains.
Oui, c'est ça. Il y en a sûrement qui ont dû attraper très froid.
Oui.
Mais ça, vous savez, c'est vrai partout. Dans la politique, dans l'industrie, partout, à un moment, il faut faire un choix. Et donc, il y en a qui sont favorisés, et puis d'autres, non. Bon, mais bon, je crois que la recherche des exoplanètes, quand même, c'est pour le commun des mortels, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
L'objectif au jour d'aujourd'hui, d'abord, c'est de trouver une planète qui ressemble le plus possible à la Terre. Ensuite, de détecter... Donc ça commence à être fait, on a quelques candidats.
Oui, je sais, il y en a même. Oui, ça commence à être un certain nombre qui sont dans ce qu'on appelle les zones habitables.
Oui.
Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Pour nous, zone habitable, ça veut dire de l'eau liquide et pas gelée. Entre les deux. Voilà.
Et alors, après, il faut trouver, faire des images directes de la surface des exoplanètes afin de faire un spectre de l'atmosphère pour savoir s'il y a les bonnes molécules pour la vie.
Oui, d'hydrogène, un peu d'oxygène.
Carbone. Donc carbone. Là, c'est quelque chose qui commence à s'ouvrir. Ça va se faire de plus en plus, notamment avec les prochains grands télescopes qui vont entrer en activité, à la fois sur Terre et dans l'espace.
Dans l'espace, parce qu'on va lancer James Webb.
Oui, ouais, d'ici 2020 par là.
Je crois qu'il a été
retardé encore.
Mais il vient de repasser à 2020, là.
À 2020. Donc, on va commencer à pouvoir désigner quelles sont les exoplanètes qui risquent d'avoir des conditions habitables. pour la vie.
La plus proche, c'est sur Proxima du Centaure.
C'est ça.
4,3 années-lumière.
Oui, oui.
Ça fait combien de milliards de kilomètres ?
Alors, une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres.
Voilà, donc 40 000 milliards de kilomètres.
Voilà. Bon. Ouais, bon. En vélo, ça ferait du temps pour y aller.
Oui, en mobylette aussi.
Oui, mais par contre, en essayant d'inventer dans le futur, à l'échelle d'un siècle, effectivement, puisque le développement technologique est plutôt exponentiel, il y a des chances, si on ne s'autodétruit pas, de pouvoir arriver à faire trouver un moyen.
Donc Stephen Hawking, là, qui vient de nous quitter, disait « Notre planète est condamnée, à terme, il faut en trouver une autre. » Le problème, c'est de le trouver suffisamment vite pour qu'une ce qui restera de civilisation humaine puisse y aller. Voilà. Et ça, on n'y est pas, parce que 2500 d'espace, où on congèle les gens, on les envoie et on les ressort 50 ans après ou 100 ans après, on n'y est pas encore à ça, je crois.
Oui, bon, c'est peut-être pas forcément la bonne solution, mais on finira par en trouver une. Effectivement, on est 7 milliards sur notre planète. Donc là, notre civilisation atteint ce qu'on appelle le stade 1. Mmh. Ça veut dire qu'on est en train d'utiliser toutes les ressources de la planète, vu notre nombre. Et ça va, donc d'ici 2200-2300, on risque d'être saturé.
Complètement.
Donc il faudra aller quelque part.
Il faudra trouver autre chose.
Voilà. Donc on a encore en gros un ou deux siècles pour que notre technologie puisse arriver à proposer des solutions avant qu'on s'autodétruise.
Si on en croit certains scientifiques, on a dans une année civile, on consomme plus que la ressource de la Terre. Donc on consomme déjà en 10 mois ce que la Terre était censée fournir en un an. Donc on a commencé à manger le capital.
Oui, on est à 90% effectivement de la zone de saturation.
On est déjà dans la zone rouge, voilà.
Oui. Bon, on va faire quelques économies certainement. Et puis, vous savez, quand l'homme est face à un danger qui concerne sa survie, il commence à prendre conscience de ce qu'il faut pour s'auto-corriger en quelque sorte. Ouais. Bon, en tout cas, nous allons vivre au moins les deux générations qui arrivent derrière nous vont arriver effectivement à être confrontées à ce problème-là de choix.
Oui.
Mais problème, il faut que ce soit un choix collectif à l'échelle de la Terre.
À l'échelle de la planète.
Hein, donc, c'est pas facile à organiser.
Non. Si on lit un certain nombre de livres, là, dont celui de Harari, vous connaissez, Homo Deus.
Oui, oui. Hein,
lui, il est un petit peu moins optimiste et il pense qu'il y aura une caste qui va en profiter et le reste de l'humanité va. Bon, comme ça s'est déjà passé dans un certain nombre de civilisations, il y en a qui survivent et les autres sont éliminés. Monsieur Gilles, je vous remercie. On a beaucoup parlé donc, de l'OHP, du futur, des planètes. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune qui nous écoute en ce moment, qui serait intéressé par ce métier, chercheur, par l'astronautique? Ça serait quoi la voie aujourd'hui, qui est, je dis pas la voie royale, mais vers quelle d'études ou quelle école, université, on peut orienter quelqu'un qui serait intéressé pour être parmi les découvreurs des exoplanètes, celui qui trouvera la planète qui va bien, qui permettra d'envoyer quelques humains pour survivre là-dessus, il faudrait qu'ils fassent quoi aujourd'hui ?
Avant de se décider d'aller suivre un cursus universitaire ou autre, il faut d'abord se poser la question, est-ce que j'ai les capacités, enfin les qualités requises pour chercher ?
Et alors, c'est quoi ces qualités requises ?
D'abord, la motivation, bien entendu, mais surtout la curiosité. Si on n'est pas curieux, il faut être un moteur, il faut être son propre moteur.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, le matin j'arrive, je cherche ce que je veux. Donc il faut avoir cette volonté, vous parlez de curiosité, et la volonté, la pugnacité d'aller dire je vais chercher dans cette direction. On ne vous trace pas la voie.
Vous savez, il y a deux étages. Soit effectivement on est son propre maître dans sa recherche, soit si on estime qu'on n'a pas toutes les capacités requises, on peut être un astronome technicien entre guillemets, c'est-à-dire on est un élément d'une équipe.
Oui.
Et il y a toujours dans une équipe un animateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va fournir de manière très abondante les idées et les conseils. Alors, on peut se mettre à deux niveaux.
Oui.
Alors, moi, dans mon domaine, je suis tout seul avec d'autres collègues à travers le monde où on interagit en permanence. Mais si on veut être son propre maître, là, il faut avoir cette curiosité permanente. Et une autre qualité, c'est le pouvoir synthétique. Ça veut dire que, en fait, quand vous faites de la recherche, vous êtes en face à un puzzle de 10 000 pièces. Et vous avez devant vous, avec la recherche des chercheurs précédents, disons 500 pièces. Avec 500 pièces, vous ne pouvez pas reconstituer l'image de 10 000 pièces. Donc, la synthétisation, il faut arriver à savoir où il faut aller fouiller à droite à gauche pour commencer à construire les petites pièces complémentaires pour commencer à grignoter pour la restitution de la totalité de l'image. Okay. Donc ça, c'est le pouvoir synthétique qu'on peut avoir. Donc il faut apprendre à synthétiser. Il y a des techniques, il y a des gens qui ont ça d'une manière innée, hein, mais on peut aussi se documenter, effectivement, comment on peut arriver à augmenter sa puissance synthétique. Donc la curiosité, la puissance synthétique, et la motivation, et une fois que vous avez ça dans votre poche, et bien alors là, il suffit de suivre un cursus universitaire où vous pouvez approcher par la physique, par les mathématiques, par l'informatique.
Par l'électronique, oui.
Voilà. Oui, donc parce que le métier d'astronome, vous avez le radioastronome, vous avez l'instrumentaliste, vous avez le théoricien, vous avez l'observateur. Il y a toute une panoplie de métiers et chacun s'y retrouve quelque part.
Oui, j'ai eu le plaisir d'interviewer un technicien de l'OHP qui, lui, n'était pas chercheur, mais qui répondait aux demandes des chercheurs en disant « On voudrait que tu nous développes un outil qui nous permettrait d'aller mesurer telle caractéristique dans telle gamme et compagnie. » Ça doit être passionnant, ça aussi.
Au CNRS, on appelle ça les ingénieurs de recherche. Ce sont des gens, effectivement, qui sont à cheval à la fois entre le métier de concepteur, de génie informatique, etc., et le métier de chercheur pur et dur qui ne s'occupe pas d'instrumentation. Donc, ces gens qui sont à la jointure, effectivement, sont des gens intéressants parce qu'ils complètent le chercheur et ils deviennent eux-mêmes chercheurs. D'ailleurs, beaucoup d'ingénieurs de recherche ont fini par devenir chercheurs à part entière.
À force d'aller développer pour les autres, ils se sont dit, je pourrais aller chercher moi aussi.
Oui, ils ont eu la curiosité, ils se sont aperçus que c'est intéressant et eux-mêmes sont devenus de très bons chercheurs.
Pour moi, plus qu'intéressant, c'est même passionnant.
Ah oui, il faut, si on a la passion, oui, effectivement.
Donc il y a aujourd'hui un champ de recherche qui est suffisamment large pour que quelqu'un qui, comme vous dites, qui est curieux, motivé, entreprenant, pugnace, puisse se lancer. Le CNRS recrute ou encore continue à recruter des chercheurs comme ça en astronautique, en aéronautique, en cosmologie.
Alors, disons, à mon époque, il y avait 5 postes par an nouveaux de chercheurs qui étaient créés pour à peu près 120 candidats.
Oui.
Bon, les candidats, c'était des gens costauds, ils avaient passé leur thèse, ils étaient en attente à l'étranger dans des instituts sur des postes de postdoc, hein, 1 an, 2 ans, etc. Et ensuite, ils arrivaient, s'ils étaient sélectionnés parmi les 120, dans les 5 qu'obtenaient un poste. Donc, il pouvait y avoir 4 ans, 5 ans d'attente avant de décrocher un poste.
Oui.
Alors, au jour d'aujourd'hui, la situation est un peu plus dramatique, puisqu'il y a un peu plus de 200 candidats au lieu de 120. Donc, il y a autant de postes.
Mais il y a toujours 5 postes.
Voilà, à peu près, hein, entre 5 et 7.
Oui, d'accord. Moins d'une dizaine de postes par an qui s'ouvrent.
Bon. Alors, sachant en plus que si on veut faire fortune, faut pas travailler au CNRS comme astronome, hein, bien entendu, puisqu'on commence à 2 fois le SMIG.
Et
pour finir à 5 fois, si vraiment les 5% les mieux cotés.
D'accord.
Donc, vaut mieux d'abord, si on veut, on peut faire aussi de l'astronomie autrement. Je veux dire, vous devenez un grand financier, un grand banquier, vous gagnez plein d'argent et vous pouvez créer et faire une fondation dans laquelle, effectivement, vous invitez des gens à venir chercher, etc. Ça aussi, ça peut être très intéressant.
Ah oui, c'est sûr que...
Aux États-Unis, les grands télescopes de 10 mètres qui sont à Hawaï sont financés sur les fonds privés. Le grand télescope du Mont Palomar de 5 mètres par des fonds privés.
Ce sont des entrepreneurs privés qui ont mis l'argent.
Absolument, parce que la défiscalisation aux États-Unis est plus intéressante qu'en France. Elle s'est un peu améliorée il y a quelques années, mais ce n'est pas encore suffisant. Mais on peut aussi chercher effectivement à des fonds privés, essayer de convaincre un grand PDG qu'effectivement l'astronomie, les exoplanètes et les extraterrestres qui vont bientôt arriver, il y a un marché potentiel, il faut investir.
Voilà.
Donc, il y a un métier de marketing à faire.
Oui, exactement.
Devenir chercheur, c'est maintenant aussi aller chercher l'argent.
T'as la recherche de financement.
Il faut s'y mettre.
Mais quand on voit des gens comme Elon Musk qui viennent faire SpaceX, au départ, c'était pas son boulot. Mais il a une vision. Et, lui, il veut emmener 10 000 personnes autour de Mars. Donc, il a les moyens, il se les donne et il réussit. Et c'est fantastique.
Il veut éliminer 10 000 terriens.
Je ne sais pas s'il veut les éliminer, mais dans le contrat qu'il a passé auprès de certaines personnes, il y a des gens qui ont dit qu'ils étaient prêts à passer un ticket aller. C'est long pour aller sur Mars, c'est difficile d'y rester. Il y a des gens qui disent qu'ils étaient prêts à y rester. Donc du militaire.
Et vous êtes candidat ?
Non. Non, on est bien dans la salle de Haute-Provence, on va y rester. Bien, merci. C'était très très intéressant. Je pense que ça va passionner nos auditeurs. Et je vous remercie encore pour toutes ces précisions et ces renseignements.
Dans la troisième émission, le 6 décembre, je vous parlerai des avions. Car avant de s'élancer dans l'espace, les hommes ont commencé par s'aventurer dans l'atmosphère terrestre. Et les progrès dans cette course à la vitesse et à la masse des appareils est aussi passionnante que celle de la conquête de l'espace. Je donnerai la parole à une personne très impliquée dans la pratique d'un sport particulièrement apprécié dans notre région, le vol à voile. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans un mois, le 6 décembre, à la même heure. D'ici là, si vous avez des questions relatives au contenu de cette émission, vous pouvez les envoyer à Espace, Horizon Inaccessible, sur le compte Facebook de Fréquence Mistral. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et vous y trouverez aussi toutes les références des ouvrages qui m'ont permis de préparer cette émission. Cette émission sera disponible sur le site de la radio fréquencemistral.com et sera rediffusé le mercredi 21 novembre à 15h. Merci à James pour la technique et à François et à son équipe pour leur accueil. Je vous souhaite une très belle fin de journée.
Merci à toi.